un coup sur la vitre. Puis une voix.
« Va bien ?»«
Monsieur, est-ce que tout va bien ?»
J'ai ouvert les yeux. D'abord sans la moindre idée d'où je me trouvais. J'ai regardé à gauche et vu le flic en uniforme qui tapait à la vitre côté conducteur de la Chevy. Puis ça m'est revenu. À mi-chemin d'Eden Fellows, fatigué, exalté et terrifié tout à la fois, j'avais eu cette sensation qui m'avertissait que j'allais m'endormir. Je m'étais garé immédiatement dans une place de stationnement libre. Ça devait être autour de 14 heures. Là, d'après l'angle de la lumière, il devait être dans les 16 heures. J'ai baissé ma vitre et dit « Désolé, monsieur l'agent. Comme je commençais à somnoler, il m'a semblé plus prudent de m'arrêter. » Il a hoché la tête.
« Ouais, ouais. Ça fait ça, l'alcool. Combien de verres avez-vous avalé avant de prendre le volant ?»«
Aucun. J'ai été victime d'un traumatisme crânien il y a quelques mois. » J'ai tourné la tête pour qu'il puisse voir l'endroit où les cheveux n'avaient pas repoussé. Il n'était qu'à moitié convaincu et m'a demandé de lui souffler au visage. Puis il a enchaîné sur la suite de la procédure.
« Montrez-moi vos papiers, » m'a-t-il dit.
Je lui ai présenté mon permis de conduire du Texas.
« Vous n'avez pas l'intention de rentrer à Jody maintenant, si ?»«
Non, monsieur l'agent, juste dans le nord de Dallas. » Je séjourne à Eden Fellows, un centre de rééducation. Je transpirais. J'espérais que s'il le voyait, il l'attribuerait au fait d'avoir dormi dans une voiture fermée par un moite après-midi de novembre. J'espérais aussi, ardemment, qu'il ne demanderait pas à voir le contenu de la sacoche posée à côté de moi sur le siège du passager. En 2011, j'aurais pu refuser d'accéder à une telle demande, arguant que le fait de dormir dans ma voiture ne constituait pas un motif d'arrestation. Zut, la place de parking n'était même pas délimitée. En 1963, cependant, un policier pouvait s'autoriser à fouiller. Il ne trouverait pas de drogue, mais il trouverait de l'argent liquide, un manuscrit dans le titre duquel figurait le mot « assassin », et un carnet rempli de délires abracadabrants à propos de Dallas et de JFK. Me conduirait-on au poste de police le plus proche pour un interrogatoire ou au Parkland pour une évaluation psychiatrique? Il resta planté là, un moment, gros, rougeau, un flic à la Norman Rockwell qui aurait eu sa place en couverture d'un Saturday Evening Post. Puis il me rendit mon permis.
« Très bien, monsieur Amberson. Rentrez donc chez ces Fellows, et je vous suggère de garer votre véhicule pour la nuit quand vous y arriverez. Sieste ou pas, vous m'avez l'air patraque. »
C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Comme je m'éloignais, je l'ai vu dans mon rétroviseur qui m'observait. J'étais sûr que j'allais me rendormir dès que je serais hors de sa vue. Il n'y aurait pas d'avertissement cette fois. Je dévierais tout bonnement en direction du trottoir, fauchant peut-être un piéton ou deux au passage, avant de finir dans la vitrine d'un magasin d'ameublement. Quand j'ai finalement garé ma voiture devant ma petite unité, avec rampe d'accès à la porte d'entrée, j'avais mal à la tête, les yeux larmoyants et mon genou me lançait. Mais mes souvenirs d'Oswald demeuraient nets et précis. J'ai balancé ma sacoche sur la table de la cuisine et passer un coup de fil à Sadie.
J'ai essayé de t'appeler en rentrant du lycée, mais tu n'étais pas là,
m'a-t-elle dit.
Je me suis inquiété.
J'étais à côté. Je faisais une partie de crib avec Mr. Kenopensky. Ces mensonges étaient nécessaires. Je ne devais pas perdre ça de vue. Et je devais les énoncer d'un ton léger, car Sadie me connaissait.
D'accord, très bien.
Puis, sans temps mort ni changement d'inflexion.
Comment s'appelle le gars? Comment s'appelle-t-il?
Lee Oswald. Elle me l'a presque soutiré par surprise. Je ne sais toujours pas.
Tu as hésité. Je t'ai entendu.
J'ai attendu que vienne l'accusation, cramponné si fort au combiné que j'ai cru que mes doigts allaient craquer.
Cette fois, ça a failli te sauter à l'esprit, pas vrai?
Il y a eu quelque chose, ai-je accordé prudemment. Nous avons bavardé un petit quart d'heure pendant que je regardais la sacoche contenant la parole de Hall. Sadie m'a demandé de la rappeler plus tard dans la soirée. Je le lui ai promis. J'ai décidé d'attendre après le Huntley-Brinkley Report pour rouvrir le carnet bleu. Je ne pensais pas y trouver quelque chose d'une grande utilité à ce stade. Les notes finales de Hall étaient sommaires, précipitées. Il n'aurait jamais imaginé que la mission Oswald durerait si longtemps. Moi non plus. Rattraper ce petit saligaud désenchanté, c'était comme progresser sur une route jonchée de branches d'arbres, et au bout du compte, le passé risquait bien de réussir à se protéger. Mais j'avais arrêté Dunning. Ça me donnait de l'espoir. J'apercevais les premières lueurs d'un plan qui me permettrait peut-être d'arrêter Oswald sans finir en prison, ni sur la chaise électrique à Huntsville. J'avais d'excellentes raisons de vouloir rester libre. La meilleure de toutes se trouvant ce soir à Jody, sans doute en train de nourrir Dickie Simmons de bouillon. J'ai écumé méthodiquement mon petit appartement d'invalide, ramassant tout ce qui traînait. Outre ma vieille machine à écrire, je ne voulais laisser derrière moi aucune trace de George Amberson après mon départ. J'espérais que celui-ci n'interviendrait pas avant mercredi. Mais si Sadie m'annonçait son intention de revenir mardi soir parce que Dickie allait mieux, je devrais accélérer le mouvement. Et où irais-je me planquer, le temps que le boulot soit fait? Très bonne question. Un coup de trompette à la télé annonça le début des actualités. Chet Huntley apparut.
Après avoir passé le week-end en Floride où il a assisté au tir d'essai d'un missile Polaris et rendu visite à son père souffrant, le président Kennedy a été très occupé ce lundi, prononçant 5 allocutions en 9 heures.
On vit alors un hélicoptère, Marine One, se poser pendant que la foule qui l'attendait applaudissait. Le plan suivant montrait Kennedy s'approchant de la foule contenue par une barrière de fortune, tout en lissant d'une main ses cheveux en bataille et sa cravate de l'autre. Il marchait à grandes enjambées, très en avant de l'escouade d'agents des services secrets qui le suivaient au trot. Fasciné, je l'ai vu se glisser par une brèche de la barrière et plonger dans la foule, serrant des mains de tous côtés. Les agents le regardaient, consternés, en lui courant après.
« Voici la scène, » poursuivit Huntley, « qui s'est déroulée à Tampa, où Kennedy a serré des mains pendant près de 10 minutes. Il ne facilite pas la tâche des hommes chargés d'assurer sa sécurité, mais comme vous pouvez le constater, la foule adore ça. Et lui aussi, n'est-ce pas, David ? En dépit de la réserve qu'on lui prête, il apprécie les exigences de la vie politique. »
Kennedy se dirigeait maintenant vers sa limousine, serrant toujours des mains et accordant ici et là une accolade à une dame. La voiture était une décapotable, exactement comme celle dans laquelle il prendrait place pour rouler de Love Field jusqu'à son rendez-vous avec la balle d'Oswald. Peut-être était-ce celle-là. Un instant, les images floues du film en noir et blanc ont capté un visage familier dans la foule. J'ai posé mes fesses sur mon canapé et j'ai regardé le président des États-Unis serrer la main de mon ancien bookmaker de Tampa. Je n'avais aucun moyen de savoir si Roth avait dit vrai au sujet de la syphilo ou s'il ne faisait que répéter une rumeur. Mais Eduardo Gutiérrez avait perdu beaucoup de poids. Ses cheveux s'étaient clairsemés et son regard était confus, comme s'il n'était pas très sûr de savoir où il était, ni même qui il était. Tout comme l'escouade des services secrets de Kennedy, les hommes qui le flanquaient portaient de longs manteaux habillés malgré la chaleur de Floride. Ce ne fut qu'une image fugace. Puis le film enchaîna sur Kennedy s'éloignant à bord du véhicule qui le rendait si vulnérable, agitant toujours la main et décochant ses sourires étincelants. Retour à Huntley, dont le visage anguleux était maintenant plissé par un sourire amusé.
La journée eut aussi son épisode comique, David. Alors que le président entrait dans la salle de bal de l'International Inn, où toute la chambre de commerce de Tempa l'attendait pour l'écouter parler, eh bien, écoutez vous-même.
Retour à la séquence filmée. Au moment où Kennedy entrait, saluant le public debout, un vieux monsieur coiffé d'un chapeau autrichien et vêtu d'une culotte de peau entonna « Hail to the Chief » sur un accordéon plus grand que lui. Le président secoua deux fois la tête avec incrédulité, puis éleva les deux mains en un geste magnanime et bon enfant. Pour la première fois, je le voyais comme j'en étais arrivé à voir Oswald, comme un homme réel. Et dans son mouvement de tête incrédule et le geste qui suivit, je vis quelque chose d'encore plus remarquable qu'un sens de l'humour. Une tendresse particulière pour l'absurdité essentielle de la vie. David Brinkley souriait aussi.
Si Kennedy est réélu, peut-être ce gentleman sera-t-il invité à jouer au bal inaugural. Probablement Fridaum Papa plutôt que Hail to the Chief. Pendant ce temps, à Genève,
j'ai éteint la télé, repris ma place sur le canapé et ouvert le carnet de Hall. Comme je le feuilletais rapidement pour arriver à la fin, je revoyais le président secouer la tête avec incrédulité et sourire, avec ce sens de l'humour, ce sens de l'absurde. L'homme embusqué à la fenêtre du cinquième étage du dépôt de livres ne possédait ni l'un ni l'autre. Oswald l'avait prouvé à maintes et maintes reprises, et il n'appartenait pas à un tel homme de changer le cours de l'histoire.